Caroline Vigneault, ancienne avocate reconvertie dans le One Man Show. Petit paysan sur France 5, Independence Day, Résurgence sur TMC et La Nuit des Molières sur France 2. Très belle soirée à tous.
Et c'était le plateau télé de François Germain qui revient demain pour nous aider à choisir nos programmes du soir à la télévision. Et si ça ne vous plaît pas, il reste la radio, bien entendu. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il est 8h sur Bretagne 5. L'heure du journal qui nous est présentée par Florian Laffont.
Bonjour, bonjour à tous. C'est le premier voyage en Europe du président chinois depuis la pandémie. Xi Jinping est arrivé en France hier, l'occasion notamment de soulever les différends économiques. Deux fusillades en moins de 48 heures à Sevran. Deux hommes ont été tués hier, un autre dans la nuit de vendredi à samedi. Des victimes qui étaient connues pour des affaires de trafic de drogue. Et puis en rugby, le Stade toulousain se hisse en finale de la Champions Cup. Toulouse qui est venu à bout des Harlequins hier après-midi. Xi Jinping en France aujourd'hui et demain. Le président chinois est arrivé hier à Paris. Une visite à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Il doit notamment rencontrer aujourd'hui le chef de l'État Emmanuel Macron pour parler, entre autres, de la guerre en Ukraine, alors que Pékin continue d'apporter son soutien à la Russie. Les questions économiques devraient également être au cœur des débats, Nicolas Gomez.
Oui, et notamment la question des mesures de protection économique. Plusieurs pays européens dénoncent notamment les subventions chinoises dans de nombreux secteurs industriels, notamment pour les véhicules électriques accusés de fausser la concurrence. L'Union européenne a lancé plusieurs enquêtes sur ce sujet. De son côté, la Chine a elle aussi lancé une enquête anti-subvention. Dans sa ligne de mire, le cognac protégé par l'État français. En attendant, Emmanuel Macron a reconnu dans un entretien à la Tribune dimanche que les Européens ne sont pas unanimes sur la stratégie à adopter. Lui plaide pour une meilleure protection de notre sécurité nationale.
Et Xi Jinping et Emmanuel Macron se rendront demain dans les Pyrénées pour un déjeuner au col du Tourmalet. Israël poursuit son offensive contre le Hamas. Elle a mené de nouvelles frappes hier à Rafah au sud de Gaza, tuant 16 personnes issues de deux familles. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé hier sa volonté de poursuivre la guerre en dépit des pressions internationales. Emmanuel Macron lui demande à Israël de cesser ses opérations et de négocier une trêve. Et après les grandes écoles comme Sciences Po et les universités, le mouvement pro-Palestine va-t-il gagner les lycées ? En tout cas, l'Union syndicale lycéenne appelle au blocus aujourd'hui et demain dans les établissements du secondaire. Elle demande un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance d'un État pour la Palestine. Un peu moins d'un an après la mort de Naël, une reconstitution des faits a été organisée hier matin à Nanterre en présence des deux policiers mis en examen dans cette affaire et de témoins. Pour rappel, le jeune garçon de 17 ans qui était au volant d'une voiture est mort après un contrôle de police le 27 juin dernier. Un drame qui avait entraîné plusieurs semaines d'émeutes à travers toute la France. Nouvelle soirée de terreur en Seine-Saint-Denis. Deux hommes ont été tués par balle hier à Sevran. Un homicide qui intervient 48 heures après une autre fusillade qui avait fait un mort et plusieurs blessés. On revient sur ce qu'il s'est passé avec vous, Colline Martin.
Oui, la première fusillade a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi dans la cité des Baudottes, quartier emblématique de cette ville pauvre. Un homme de 28 ans, vous l'avez dit, a été tué. Une affaire qui pourrait avoir un lien avec le trafic de drogue, selon le maire d'Hiver Gauche de Sevran. Et puis moins de 48 heures plus tard, nouveau coup de feu. Cette fois, les victimes sont deux hommes âgés de 33 et 35 ans. Le ou les tireurs ont pris la fuite. Les deux victimes étaient aussi connues pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants. Mais pour l'instant, le parquet n'a fait aucun lien entre les deux affaires.
Et on rappelle que Sevran a également fait l'objet d'une opération anti-drogue PlaceNet XXL le 25 mars dernier. Objectif, porter un coup d'arrêt au trafic. Nouveau rebondissement dans l'affaire. Kenji Girac, pour la première fois, la compagne du chanteur a décidé de prendre la parole deux semaines après la blessure par balle de l'artiste à Biscarrosse. Dans un entretien au Parisien, elle réfute l'hypothèse du chantage au suicide, contrairement à ce qu'avait dit le procureur. L'artiste lui avait évoqué aux enquêteurs un accident domestique. On connaît les noms des premiers porteurs de la flamme olympique sur le sol français. Elle arrive mercredi dans le port de Marseille. Après Florent Manaudou qui sera le premier porteur, se succéderont ensuite Tony Parker, Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Didier Drogba ou encore Soprano. Et puis en en rugby, le Stade Toulousain qualifié pour la finale de la Champions Cup. Les Rouges et Noirs ont battu hier en demi les Anglais des Harlequins 38 à 26. Les Anglais qui ont mis la pression sur les Toulousains en deuxième période. On écoute la réaction d'Antoine Dupont au micro de France 2.
Ça a été le discours à la mi-temps de vraiment rester vigilant. On savait qu'ils étaient capables de remonter des gros scores et finalement c'est ce qu'ils ont fait. On dit qu'ils jouent beaucoup mais ils sont aussi très solides sur les fondamentaux. Ils ont contesté beaucoup de ballons, ils ont une conquête très solide qui nous a mis à mal, des très bons lancements de jeu. Donc voilà, c'est une équipe difficile à manœuvrer, mais c'est bien qu'on ait su rester sérieux et consistant jusqu'à la fin du match. Les finales, c'est toujours les matchs les plus durs à jouer. On connaît cette équipe du Leinster, on connaît sa capacité à être régulière au niveau. C'est leur troisième finale d'affilée, c'est pas pour rien. Donc on sait où on va mettre les pieds. On a trois semaines maintenant pour se préparer.
Et Antoine Dupont et ses coéquipiers tenteront de remporter un sixième titre européen le 25 mai prochain à Londres. Ça sera dans le stade de Tottenham face aux Irlandais du Leinster. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente matinée. À notre écoute.
Florian Lafont était avec nous pour les informations. Florian qui revient à 9h moins le quart pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, nous aurons parlé météo, nous aurons parlé jeux vidéo avec François Germain, nous aurons retrouvé l'horoscope des méchants de David de Christoffel et même Alessio Barazzarritori qui nous parlera dans sa chronique Comprendre à 8h10 des applications de rencontres. Voilà ce qui nous attend dans la matinale et bien entendu, notre invité politique à 8h15, Paul Molac, député de la 4e circonscription du Morbihan. Il est également conseiller régional. Il sera avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Mais pour l'instant, il est 8h06 et on va prendre des nouvelles du ciel.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
L'embellie arrive voilà. À partir de demain. Il faudra donc attendre une petite journée avant de voir s'éloigner la pluie et de profiter de températures printanières. Enfin, la perturbation qui a traversé la Bretagne la nuit dernière s'évacue lentement vers l'est. Ce matin, ce sont donc des nuages qui dominent sur l'ensemble de la région avec des averses qui se déclenchent de la pointe bretonne au bassin nantais. Personne n'est épargné. Cet après-midi, la zone d'averses qui s'est développée dès le matin va se généraliser à l'ensemble de la Bretagne. Ces averses prendront parfois un caractère orageux avec des pluies localement marquées. En milieu d'après-midi, le soleil va revenir par la pointe Finistère et gagner du terrain au fil des heures. En soirée, seuls l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique seront encore concernés par quelques passages nuageux. Dans le courant de la journée, le vent va s'orienter à l'ouest. Il soufflera en rafale jusqu'à 50 km/h. Ce matin, les températures sont comprises entre 7 et 12 degrés. Cet après-midi, on attend des maximales comprises entre 14 et 17 degrés au meilleur de la journée.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Et tout de suite, nous allons parler jeux vidéo avec François Germain.
Aujourd'hui, dans votre rendez-vous jeux vidéo, un hommage à une grande figure de la culture japonaise. C'est peu dire qu'il a profondément marqué la pop culture. Akira Toriyama nous a quittés début mars, le créateur du manga le plus célèbre au monde, Dragon Ball. Mais pas seulement, le japonais est aussi à l'origine de Dr. Slump ainsi que de Sandland au début des années 2000. Sandland qui vient d'avoir droit à son adaptation en jeu vidéo quelques semaines seulement après le décès d'Akira Toriyama. Sandland nous plonge dans un monde futuriste rempli de sable à cause d'une pénurie d'eau. La seule source d'eau potable est en possession du roi qui n'hésite pas à pratiquer des prix exorbitant. C'est dans ce contexte pas vraiment accueillant que vivent démons et humains. Commence alors une quête pour tenter de trouver une source capable d'alimenter la planète. Dans ce jeu d'action, on incarne le prince démon Beelzebub et on arpente un monde semi-ouvert dans lequel on peut même conduire des tanks et participer à des combats face aux factions ennemies. Des tanks que l'on peut ensuite améliorer avec de nouvelles pièces plus puissantes. Et il vous faudra un bon véhicule pour traverser en un seul morceau les vastes étendues de sable. Mais il n'y a pas que des véhicules et vous serez aussi amené à vous battre au corps à corps. Graphiquement, on reconnaît au premier coup d'œil la patte Toriyama avec son coup de crayon si caractéristique. On a l'impression de plonger au cœur du manga. Un jeu loin d'être parfait mais qui ravira les amateurs de l'œuvre originale. Sandland, disponible sur PC, PS5, PS4 et Xbox Series.
Et nous parlions jeux vidéo avec François Germain. Il viendra parler de séries d'ailleurs dans la semaine. François, au micro de la matinale. Il est 8h09 sur Bretagne 5, c'est lundi, vous l'aurez compris, toute l'équipe est là jusqu'à 9h, y compris bien entendu David Christoffel qui a regardé les astres, qui va nous en livrer toutes les clés tout de suite. C'est l'horoscope des méchants.
Bonjour tout le monde, Balance, si vos proches vous violentent, si vous devez faire sourde oreille, faites-le discrètement pour pas dissuader vos proches de vous violenter parce que ça vous fait vous élever dans un genre de peut-être quoi. Enfin bon, Poisson, faut savoir mettre un terme à ce que vous savez bien parce que si ça vous gêne, je veux dire, c'est bien qu'il faut faire ça autrement quoi. Lion, faites-vous tout petit et puis là au moins vous verrez les choses différemment, mais attendez long. Substance livresque, votre seule tempérance devra suffire à vous combler. Sagittaire, si vous ne pouvez pas vous abstenir de juger les autres, cela que vous avez pas le temps de... C'est-à-dire, faites-le avec douceur, vous vous réputerez juste et quelqu'un de bien en quelques mois. Gémeaux aussi, positivez, voilà, fermez les yeux, cherchez la lumière au fond d'eux, même si l'obscurité persiste, c'est simplement que l'obscurité persiste. Bélier, vous avez toujours ce côté célibataire fringant, autant le dire tout de suite, donc pas toujours fringant. Scorpion, assénez-vous vos grosses vérités, mais gardez votre naïveté, cultivez une certaine spontanéité, ce sera bien parce que bah, ça peut pas se faire, quoi. Vierge, c'est sûr, on apprend à tous les âges, mais c'est pas une raison pour présenter ces nouveaux trucs comme si c'était des bonbons. Capricorne, on vous a déjà dit hein, de pas être si suiveur. Taureau, c'est vrai hein, qu'il y a toujours un fossé entre ce qu'on fait et ce qui est perçu. À part ça, bah, ça va, ça vient. Voilà, tout le monde, soyez sages.
Ça va, ça vient. C'était David Christoffel, l'horoscope des méchants. Et on va être sages, c'est promis David, jusqu'à demain, puisque vous revenez demain pour un nouvel horoscope des méchants. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h11. Tout de suite, nous allons retrouver Alessio Barazza-Ritori qui nous propose une plongée dans un monde numérique bien connu des jeunes et tout de même aussi de pas mal de vieux, à savoir les applications de rencontres. Bonjour Alessio.
Bonjour Stéphane. Dites-moi, est-ce que vous connaissez les applications de rencontres? Sûrement avez-vous entendu parler de Tinder, OkCupid, Adopt-un-mec ou Fields. Mais savez-vous comment vous y prendre pour créer votre profil? Pas de souci, je vous donne le mode d'emploi. Même si chacune de ces applis a sa propre recette, le principe reste toujours le même. Le profil d'une personne apparaît sur votre écran. En premier lieu, vous voyez une photo. Là, il y a deux écoles. Soit vous voyez instantanément que cette personne ne vous plaît pas et vous passez au profil suivant, soit votre curiosité est piquée et vous souhaitez en savoir plus. Généralement, les gens ne sont pas avares de photos. Leur but, donner envie aux partenaires potentiels. Vous pouvez très bien être tout sourire ou tirer la gueule, les deux fonctionnent. Ça vous étonne? Pourtant, vous le voyez bien dans les pubs de parfums, l'inaccessibilité intrigue, attire même. Viennent ensuite celles laissant apercevoir certaines parties du corps que vous souhaitez mettre en valeur. Quoi que vous cherchiez, il vous faut une attirance physique. Si vous êtes suffisamment à l'aise, les photos prises en maillot de bain sur la plage sont un must. Bah oui, il faut bien pâter un minimum le chaland. En bonus, vous pouvez aussi vous mettre en scène réalisant une activité que vous aimez et que potentiellement vous voudriez faire avec l'autre. Faire de l'escalade, de la voile, caresser votre chat ou dévorer un kebab en seulement deux bouchées un dimanche à 4h du matin en sortant de boîte de nuit, je confesse, cette dernière image marche plutôt bien sur moi. Après tout, pourquoi se prendre au sérieux? Enfin, arrive la partie la plus compliquée, la description biographique. Vous pouvez très bien être factuel, poétique, humoristique. L'idée est de parler de vous en suscitant l'intérêt du lecteur. Les seules limites sont le mensonge et l'imagination. Il y a cependant une problématique commune à tous ces profils. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter pour à la fois attirer les gens qui pourraient me plaire et en même temps éloigner ceux qui ne m'intéresseraient pas? Il vous faut alors devenir clivant. Vous pouvez préciser vos opinions politiques, vos goûts et surtout vos attentes relationnelles. Peut-être que ce dernier point vous semble un peu flou, surtout si pour vous cela fait partie de vos objectifs de vie d'avoir une relation sentimentale sous la forme d'un couple classique et ne concevez rien d'autre. Il y a cependant pas mal de gens qui ne cherchent pas l'amour avec un grand A, sans s'empêcher non plus qu'il puisse advenir, ni de relations stables et exclusives, voire même qui cherchent des relations. De plus, il est même possible que cette non-exclusivité, c'est-à-dire le fait de ne pas se limiter qu'à un seul partenaire, ne soit pas seulement sexuelle, mais aussi sentimentale. Je sais que pour beaucoup, c'est très difficile et crée même un sentiment de répulsion au simple fait de l'imaginer, tellement cette chose si intime qui est le cadre dans lequel peuvent s'exprimer nos sentiments est ancrée en chacun de nous. La pensée que notre partenaire de vie est, peut-être au fond de lui, des aspirations différentes de vous, vous effraie, puisque celle-ci existe. C'est rassurant d'ignorer ce que d'autres peuvent vouloir vivre, parce qu'on ne s'en inquiète pas. Maintenant qu'on a ça en tête, on se rend compte que c'est une chose très importante à préciser. Ce serait dommage de commencer à se rapprocher de quelqu'un, qu'apparaissent une attirance et un attachement mutuel, pour se rendre compte que les envies ne le sont pas. Donc, en précisant si vous ne cherchez qu'à vous amuser sans engagement, ou une relation mais ouverte sexuellement, voire carrément sentimentalement, vous vous protégez vous-même, mais aussi les autres. Un genre de préservatif des cœurs brisés à enfiler dès que possible pour éviter toute maladie sentimentalement transmissible. Sauf qu'il arrive qu'il craque, et que se répande alors le flot des pires émotions. La tristesse, la colère, la haine, bref, toutes celles que l'on ressent lorsque l'on est du mauvais côté de la rupture. Et oui, qu'est-ce que vous pensiez? Étant plutôt dans ce mode de vie, on me rabâche souvent que c'est vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Que c'est seulement chercher les avantages sans les inconvénients, une quête perpétuelle de bonheur léger, au risque minime, comparé à la vraie relation de couple fusionnel et à son déchirement. Pourtant, ne pas se suffire d'une seule personne ne nous protège pas ni d'elle, ni des autres. C'est même le contraire en vérité. Vous voyez comme il peut être difficile de faire tenir une relation, imaginez plusieurs. Effectivement, c'est différent. C'est pas pareil. C'est le but d'ailleurs. Mais il existe des points communs à tous les types de relations. Elles sont toutes là pour créer et partager du bonheur avec quelqu'un. Il arrive que toutes les parties n'aient pas forcément les mêmes attentes entre elles, ce qui peut engendrer un terrible bordel, ou que des envies changent. Savoir ce qu'on veut avec quelqu'un, c'est déjà pas simple, alors imaginez savoir ce que vous voulez avec d'autres. C'est un autre point commun. Aucune ne peut nous préserver totalement du changement, de la trahison, de la déception et du chagrin. Si on ne peut pas empêcher que cela arrive, on peut toujours anticiper et prévenir. Apprendre de ses erreurs, discuter, mesurer la confiance que l'on donne, être lucide sur la situation et ne pas engager des personnes avec vous si vous n'êtes pas capable de le leur rendre. Bref, comme n'importe quelle relation finalement. Tout cela m'amène à une question. Que vous ayez le cœur suffisamment gros pour entretenir des relations avec plusieurs personnes ou non, comment faites-vous pour que le sucré l'emporte sur la mer ?
Voilà, toute la question, c'était Alessio Barazza-Ritore. Comprendre à retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce matin, ce lundi matin, notre invité est Paul Molac, député de la 4e circonscription du Morbihan, circonscription Plohermel-La Roche-Bernard, c'est important de le préciser, et également conseiller régional de Bretagne. Merci d'être avec nous ce matin, Paul Molac, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir, vous savez bien.
Eh oui, alors il y a longtemps, on n'avait pas entendu votre voix sur l'antenne de Bretagne 5. On avait envie de parler, en cette période d'élections européennes, d'Europe évidemment, mais aussi des territoires. Et on vous sait, Paul Molac, très attaché à votre territoire, à la culture bretonne. D'ailleurs, les auditeurs qui vont regarder la vidéo, puisque nous sommes filmés maintenant à la radio, vont voir votre très joli costume breton. Vous en avez fait un peu votre marque de fabrique.
Oui. Alors, tout simplement, à l'Assemblée, quand il y avait mon collègue Brotherson qui était là, il arrivait avec sa chemise à fleurs, parce qu'il est polynésien, et puis son kilt de Polynésie. Et je me suis dit, moi je peux bien arriver avec un gilet breton. Et donc, celui-ci est un gilet avec les couleurs du Vannetay. Donc, il est noir, avec des broderies dont on a pris les modèles sur les châles de ma grand-mère. Et avec les couleurs du Vannetay, c'est-à-dire le jaune, le blanc et le bordeaux. Donc c'est un gilet mode Plohermel, et comme Plohermel, c'est dans le Vannetay, hein, et c'est pas simplement dans le Morbihan, c'est aussi au niveau des vêtements, en partie dans le Vannetay en tout cas, et là c'est le cas. Donc c'est un... Alors d'habitude j'ai aussi un gilet un peu plus cornoyais, qui fait un peu plus quimpérois celui-là, mais celui-ci est vraiment de Plohermel.
Voilà, et vous l'avez mis ce matin pour venir à Bretagne 5, et il est très élégant, je dois le dire, très joli. On va quitter un peu la mode, si vous me permettez, Paul Molac, pour parler des territoires, mais finalement, on n'est pas si éloigné de propos. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Europe avec les élections européennes, dans moins d'un mois maintenant. Élections européennes qui cristallisent beaucoup de colère, beaucoup d'agitation, on le voit aussi. On a un pays fracturé. Est-ce que demain, une des solutions à ce pays fracturé, c'est la clé des régions, la clé des territoires?
Ben, moi, je le crois, hein, fondamentalement, parce qu'aujourd'hui, on a une Europe qui est en fait l'Europe des États. Parce qu'ils sont tous en train de se plaindre de l'Europe, mais en fait, c'est quand même eux qui la font. Parce que vous savez que le Conseil des ministres de l'agriculture des différents pays décide d'un certain nombre de choses, le Conseil des chefs d'État, c'est pareil, et la Commission décide, elle aussi, d'un certain nombre de choses, mais honnêtement, elle est quand même sous la coupe des États. Mmh. Et le problème qu'on a en France, c'est que, contrairement aux autres pays où on a une large dévolution, c'est-à-dire que les régions ont la capacité de lever l'impôt, ont la capacité de faire des lois de pays, ont la capacité d'adapter les règlements, et malheureusement, c'est pas le cas en France.
Donc, on a un système plus fédéraliste dans certains pays, on pense évidemment à l'Allemagne ou à l'Espagne.
À tous, en fait, quand vous regardez. Tous les pays qui nous entourent sont des États fédéraux ou des États avec des autonomies régionales. Alors, il y a des petits États, comme la Belgique ou la Suisse, où là, la Suisse avec les cantons, c'est historique, etc. Mais le fédéralisme en Allemagne, bon, c'est venu plutôt après 1945. En Grande-Bretagne, c'est venu en 1999. En Espagne, après le franquisme. Et puis, en Italie, c'est venu après la Seconde Guerre mondiale aussi. Et là, ce sont des pays qui fonctionnent de cette façon-là, avec une large autonomie aux différentes collectivités locales. Et moi, je plaide à Paris pour ça aussi, parce que quand je vais vous donner quelques petits exemples. Quand la région Bretagne, par exemple, veut faire un TER, par exemple, on a la fameuse loi sur les trains express métropolitains. Et nous, on a expliqué que avoir un train sur Brest ou sur Rennes, ça nous intéressait pas, c'était pas ce qui convenait pour nous. Ce qui convenait pour nous, c'est de faire des liaisons relativement rapides entre Rennes et Brest, et entre Rennes, Nantes et Rennes, Quimper.
Et donc, des liaisons utiles, finalement.
C'est ça. Donc, il a fallu qu'on rentre en expliquant qu'il fallait modifier la loi, etc. Et c'est compliqué, parce qu'il faut le faire avec le gouvernement, il faut le faire avec les députés, et on n'a pas la possibilité, la région Bretagne n'a pas la possibilité d'adapter la loi sur ces questions-là. Donc, quelquefois, ça marche, et puis d'autres fois, le gouvernement ne veut pas, pour telle ou telle raison, et ça ne fonctionne pas. Ça, c'est pour la région. Mais si je prends le bloc communal... Les communes. Tout le monde a entendu parler des dents creuses.
Les dans fameuses un village, dents creuses, voilà, il y en a dans les villages.
Il y a une terre, là, vous avez quelques arts, quelques centaines d'arts. On mettra jamais un tracteur dedans. De toute façon, il a mis, avec les tracteurs de 220 chevaux, maintenant, on a même à place, à peine la place de tourner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, on doit pouvoir urbaniser. Il y a déjà tous les réseaux d'eau, d'électricité, téléphone. Il y a déjà une route qui vient. Donc, on peut assez facilement, et ça coûte pas très cher, urbaniser ces dents creuses. Sauf que la loi dit, c'est exceptionnel.
Ah.
Alors, le maire de Carantoire, que je connais bien, il me dit, bon, écoute, moi, j'ai un bourg, 240 villages. Comment veux-tu que chez moi, l'urbanisation des dents creuses des villages, ce soit exceptionnel? C'est pas possible. Et donc, bah, il faudrait qu'ils puissent dire, ben voilà, le terme d'exceptionnel, non, ce sera pas exceptionnel. Mais pour l'instant, il peut pas.
Alors qu'on a un besoin cruel de logement ici en Bretagne, on en a beaucoup parlé dans la presse et ici au micro de la matinale, y a une incompréhension finalement du terrain, le terrain que vous vivez, vous, Paul Monac, et vous vivez aussi la République puisque vous allez à Paris. Il y a une incompréhension des gouvernements, alors je dis des gouvernements en général, par rapport au terrain.
Oui, complètement. C'est-à-dire que ça fonctionne par statistique. Donc voilà, on a consommé tant de terres agricoles, donc il ne faut pas en consommer tant, etc. Alors là-dessus, ils ont raison sur le fond, hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est comment on le fait? Et finalement, est-ce que urbaniser les dents creuses, ça ne permet pas à un moment donné de ne pas faire un lotissement en bordure de bourg, qui prend de la terre agricole en général au bordure de bourg, ce n'est pas la plus mauvaise, voire d'en faire un plus petit? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc on économise parce qu'on utilise de la terre qui de toute façon ne sera pas de la terre agricole. Mais ça, on a beau, ça rentre pas dans les statistiques, ça. C'est difficile à rentrer. Et le problème, c'est qu'on a un certain nombre de choses comme ça. Il y a des objectifs par rapport, par exemple, à la décarbonation, mm-hmm. par rapport à moins de gaz à effet de serre. Donc le principe, il est bon. C'est l'application après qui est mauvaise parce que c'est purement statistique. Mmh. En fait, on tient plus compte des réalités locales.
On n'entend pas les élus de terrain, on leur fait pas confiance.
Ah non, ça c'est le problème. Ça c'est le problème. On a une administration centrale qui pense que c'est elle qui incarne l'intérêt général et l'intérêt de la nation avec un grand N, et que les élus, eux, par contre, sont les représentants de leurs électeurs. Donc nous, c'est pas l'intérêt général, c'est l'intérêt de nos électeurs. Sauf que, je dis, comme je dis bien souvent, l'intérêt général, c'est souvent l'intérêt particulier de celui qui définit l'intérêt général. Donc, nos braves gens qui sont dans nos ministères sont des urbains, donc ils vont penser comme des urbains, et finalement, leur intérêt général à eux, ce sera pas forcément le nôtre. Mmh. Et toute la difficulté est là. Et à un moment donné, il faut un équilibre. Donc, il faut un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, c'est celui des territoires.
Alors, on voit des territoires qui ont envie d'autonomie. Alors, on va prendre l'exemple emblématique de la Corse. Depuis de nombreuses années, la Corse demande son autonomie, parfois même son indépendance. Là, il y a un processus qui a été lancé par Gérald Darmanin, un processus d'autonomie dans la République française, hein, c'est le terme précis. On a entendu le président de la région, Loïc Chesnais-Girard, on l'a évoqué ici au micro de la matinale, et il l'a évoqué également là aussi au micro de la matinale, avoir des envies d'autonomie, avoir envie, en fait, que la Bretagne soit la deuxième région autonome en France. On sent aussi qu'il y a une cristallisation des peurs, l'autonomie, l'indépendance, et si demain on nous fait tous parler breton, et porter l'abri breton, pourquoi pas. Voilà, il y a ces peurs peut-être infondées, évidemment, là je vous titille un peu, oui. Paul Molac. Vous les entendez, ces peurs, ces craintes?
Oui, bien sûr. Oui, parce que derrière, en fait, c'est le problème de qu'est-ce que c'est être français. Mmh. C'est ça, en fait. Et donc, le problème, pour moi, les choses sont assez simples. Il y a des citoyens, donc moi je suis citoyen français, j'exerce mes droits politiques avec les autres, en fonction de la Constitution, de la loi, etc., etc. Ça, c'est la citoyenneté. Et puis après, en France, les choses sont pas très claires, on sait pas trop ce que c'est que la nation, on sait pas trop... Alors pour certains, la nation, c'est parler parisien, en gros. Hein, je vais faire simple, mais c'est un peu ça. Et là, je leur dis, bah non, écoutez. Et moi, je dis, bah moi, je suis de nationalité bretonne, parce que je suis breton. Ça m'empêche pas d'être un citoyen, d'exercer mes droits politiques avec les autres. Mmh. Mais je ne confonds pas les deux. Et tant qu'on ne fera pas cette distinction en France, on aura un problème. On pensera que, à partir du moment où on a oublié de mettre un E qui s'entend pas quelque part, c'est une faute, et mon Dieu, on est en train de tuer la langue française, parce qu'il y en a qui vont jusque-là. Mmh. Non, c'est pas ça. Et là, c'est pour ça que c'est pas clair chez eux. Mmh. Et si on faisait une distinction entre les deux, ce serait beaucoup plus clair. Et on n'aurait pas à dire, bon ben voilà, il faut que les gens arrivent. Et y a une forme de xénophobie. Mmh. Et quand je vois, par exemple, la République française n'est pas raciste. Ça, c'est clair. Vous pouvez avoir n'importe quelle couleur. Vous pouvez avoir des places très importantes. Vous pouvez arriver à des choses qui sont tout à fait satisfaisantes. Y compris à la télé, y compris dans les ministères, y compris ministre, pourquoi pas, à une condition. C'est que vous parliez et que vous ayez les mêmes codes culturels que nos braves gens qui habitent à Paris. Si jamais vous avez un accent, si jamais vous avez pas les mêmes codes culturels, eh bien vous serez mis de côté. Et ça, c'est une forme d'exclusion. Je veux prendre un exemple, là aussi. Et vous croyez vraiment que quelqu'un qui parle comme ça présentera le 20 heures à Paris?
Eh bien, ce sera compliqué.
Et pourtant, d'ailleurs, il y a eu des dans les écoles de journalisme, on leur dit, ah mais vous avez un accent, pas la peine d'essayer de faire de la presse orale. Hein.
Mm-hmm. Et pourtant, il y avait des grandes voix, hein, qui avaient des commentateurs sportifs, mais aussi on pense à André Arnault, qui fut une des grandes voix d'Europe 1, jadis, ouais. Il y a bien longtemps, qui avait cet accent du Sud-Ouest.
On a apathie.
Jean-Michel Apathy.
Avec un accent basque assez, assez fort, mais c'est un des seuls. Hein. Et oui, c'est compliqué au niveau des accents, des langues. C'est vraiment, en France, c'est vraiment pas simple.
On dira un petit mot des médias tout à l'heure, régionaux, qui font un travail important hein, pour la culture dans les régions, en Bretagne, ici, et bien dans bien d'autres régions. Mais je voulais vous entendre aussi sur le fait de cette autonomie de la Bretagne. C'est aussi une forme d'autonomie culturelle. Il y a longtemps que la Bretagne, qui attire beaucoup d'ailleurs.
Oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autonomie, ce n'est évidemment pas l'indépendance. D'ailleurs, moi, je ne suis pas favorable aux indépendances globalement. Hein. On a à peu près 126 nationalités en Europe. On va pas faire 126 États.
Ce serait compliqué à gérer.
Ce serait compliqué. Donc, j'allais dire, l'idée française, comme quoi il y a un État, un peuple, une langue, il faut qu'on dépasse ça. Parce que si on fait ça, on atomise l'Europe. Et donc, c'est pas l'idée. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un poids au niveau mondial, ce sera l'Europe ou ce sera rien. Il faut être clair.
D'autant plus, en voyant la situation géopolitique, on pense aussi à la guerre en Ukraine, à nos portes.
Complètement. Et on a des grands États qui sont à la taille des continents, l'Inde, la Chine, la Russie, et le Brésil. Et là, c'est l'échelle européenne qui est la bonne. L'autonomie, c'est tout simplement en rendre efficace l'action publique. Je l'ai montré tout à l'heure en prenant l'exemple des dents creuses. Comment on veut que le bloc communal soit dans le domaine du logement efficace? Eh bien, faut lui en donner les moyens. J'ai parlé des transports pour la région. Et en fait, tout simplement, c'est permettre aux collectivités locales d'être efficientes. Parce qu'aujourd'hui, on pense que si on traite tout le monde de la même façon, à Paris, eh bien, on va être égaux. Mais traiter de façon différente des situations différentes, les traiter de façon égale, ça revient à faire perdurer les inégalités. Donc la seule façon de s'adapter au territoire, c'est de dire au territoire, bah effectivement, allez-y, expérimentez, et puis on regardera les résultats.
Il y a des spécificités, évidemment, entre les régions, des spécificités culturelles, de mentalité aussi. On ne pense pas dans le sud de la France comme on pense en Bretagne ou dans le nord de la France. On oublie ces spécificités-là, on les a nivelées un petit peu au niveau national.
Ah ben, certains veulent carrément les voir disparaître. Mais je vais vous donner un exemple là-dessus qui va sans doute éclairer un peu. Prenons l'enseignement bilingue breton-français. Ça fait 40 ans que ça existe.
On pense aux écoles d'Iwan.
On pense aux écoles d'Iwan, mais il y a aussi, en fait, aujourd'hui, c'est dans l'enseignement public qu'il y a le plus d'enfants qui sont en bilingue. Ça fait 40 ans que ça existe, 40 ans que l'éducation nationale ne réussit pas à former suffisamment de maîtres pour le premier degré et le second degré. Croyez vraiment que si la région s'en occupait, 40 ans après, on n'aurait toujours pas réglé le problème ?
On n'en parlerait sans doute pas parce que ce serait naturel.
Voilà. Donc, en fait, on voit bien là qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que l'État, à partir de Paris, commence à devenir inefficient. Parce que il faut dire aussi qu'on demande tout à l'État. Prenez aujourd'hui un maire, autrefois, il ne s'occupait pas de commerce, il ne s'occupait pas de logement, il ne s'occupait pas non plus
De police, on peut imaginer.
Alors, de police, un petit peu.
Il y avait le garde-champêtre.
Mais entre le commerce, le logement et la médecine, avec les maisons de santé, c'est ça qui m'échappait. Aujourd'hui, il s'occupe de tout ça. Donc, on voit bien que la puissance publique, aujourd'hui, s'occupe de tout.
Avec des maires qui jettent l'éponge parce que ça devient trop vite et très compliqué, en particulier dans des petites structures, petites communes.
C'est vrai, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Moi, je vois les maires, chez moi, je suis admiratif, hein, honnêtement, parce qu'ils bossent, ils voient les difficultés, ils essayent d'y pallier, ils font un travail énorme. Et pourtant, ils n'ont pas les moyens réglementaires ou les moyens législatifs de faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, je pense qu'il faut leur lâcher la grappe. Et ça s'appelle l'autonomie. On est très loin de l'indépendance.
Qu'est-ce qui fait peur dans l'autonomie? Qu'est-ce qui fait peur à ce qu'on appelle le pouvoir central?
Parce que dans les idées françaises, on est parti du principe que la France a toujours existé. Donc la Gaule, c'était déjà la France. Alors quand je voyais le petit Lavis, c'était marqué « La Gaule, c'est la France avant la France ». Bon, faudra qu'on m'explique comment on peut être avant même d'exister, mais enfin bon. Et
En fait, le Moyen-Âge, c'est la destruction de la France, quelque part. Et après, c'est les rois et la République qui vont refaire la France.
Avec des provinces, donc, quand même.
Et là, les provinces, en fait, quelque part, se sont faites au détriment de la France. C'est ça qu'on met dans la tête des gens. En fait, non, bah c'est autre chose. De toute façon, la France n'existait pas avant, si on prend la Bretagne par exemple, elle n'entre en France qu'au XVIe siècle, en 1532. Donc, mais on est dans l'idée que la France, les régions ne sont pas légitimes, que finalement, ils ont essayé à détruire la France, alors qu'en fait, ils n'ont jamais pu le faire. Hein. Et tout ça, ça se met dans la tête des gens, par l'école, entre autres. Alors qu'en fait, non, la France est une construction historique qui s'est faite au Moyen-Âge, mais aussi à l'époque moderne, et qui s'est terminée, en gros, je dirais en 1860, avec la Savoie et Nice. Voilà. Et cette construction historique, bien, elle est en place. Très peu de gens veulent, veulent sa mort. Hein, donc on est vraiment dans une espèce de... de paranoïa, là, parce que les indépendantistes, ils sont très, très peu nombreux.
On a entendu des députés, en tout cas des responsables politiques, on pense au Rassemblement National, qui à un moment ont eu l'idée, ont imaginé que les régions pourraient disparaître. Je vous ai senti vous tendre tout à coup, Pierre Molac. Paul Molac, pardon, je vous appelle Pierre, Paul Molac.
Oui, alors ça fait partie des idioties qu'on peut entendre en ce moment. Alors, pour faire des économies, on va supprimer la région. Alors, je dis aussi, on supprime donc les dotations qu'on donne au lycée, je suppose. On supprime donc les TER. Donc, en fait, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais on ne supprimera évidemment pas les services que fait la région, et elle en fait un certain nombre. En particulier, on parlait en off tout à l'heure du transport. Effectivement, la région essaye de développer le TER en mettant plus de rames, essaye de développer les cars régionaux en mettant plus de cars régionales. Alors, par exemple, je pourrais prendre la ligne Pleurmel-Vannes, où on s'est arrangé avec la communauté d'agglomération de Vannes, avec les communautés de communes de Pleurmel et de Brocéliande, OBC, pour avoir, en fait, on leur a dit, bon, voilà, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on ait un car qui fasse Pleurmel-Vannes assez rapidement, donc qui s'arrête le long de la 4 voies, mais qui ne s'arrête plus dans les différents villages. Libre à vous, ensuite, de mettre en place des transports qui seront payés à moitié par la région et à moitié par vous, pour desservir, à partir de ces points-là sur la 4 voies, de desservir tous les bourgs et les villages que vous voulez desservir. C'est vous qui voyez. Et du coup, on a augmenté la fréquentation en quelques mois de 75%. Et on a non plus deux navettes comme on avait autrefois, mais 8.
On a privilégié l'efficacité finalement.
Oui, et puis le service rendu aux habitants, on essaye en tout cas. Et c'est ça l'intérêt, si vous voulez, des collectivités locales, parce qu'elles peuvent mettre en place un certain nombre de services pour les habitants. Et certains trouvent que c'est encore cher, mais sachez que 90% de la somme, elle est payée par les communautés de communes et par la région.
Est-ce que une région comme la région Bretagne a assez de moyens pour faire vivre ses ambitions, son ambition politique? En gros, est-ce que l'État pourrait faire un effort sur la dotation?
Alors, c'est le grand moment, parce que l'État, qui est quand même assez, je vais dire, assez curieux, le déficit, c'est lui. Les collectivités locales n'ont pas le droit de faire des déficits, donc elles ne font pas de déficit de fonctionnement. Et il vient dire que c'est de la faute des collectivités locales s'il est en déficit. C'est quand même un peu fort de café, tout ça. Et la région Bretagne, alors, au niveau de la mobilité, effectivement, on voudrait qu'il y ait un versement additionnel pour pouvoir faire plus de mobilité encore. Parce que là, en fonction de nos budgets, on voit bien qu'on n'y arrivera pas. On ne va pas pouvoir développer plus. Donc c'est une proposition qu'on a fait au ministère, parce qu'on n'a pas le choix de le faire nous-mêmes, on peut pas lever l'impôt, et pour l'instant c'est non. Donc bon, j'avais proposé moi, pendant la loi sur les fameux trains express métropolitains, cette proposition qui n'a pas été retenue par le gouvernement et pas par la majorité des députés malheureusement. Donc, voilà. Mais non, on n'a pas forcément les moyens de le faire, mais vous voyez bien que c'est des moyens qui sont liés, en fait, à la possibilité de changer le règlement ou de faire la loi.
Là encore, on revient à la décentralisation, aux envies d'autonomie.
Complètement. Et il y a un territoire dans la République qui fait des lois de pays, c'est la Nouvelle-Calédonie.
Mmh. Donc là, on pourrait s'en inspirer finalement.
Ben, je pense. Et on a parlé de la Corse tout à l'heure, mais pour la Corse, c'est vraiment une question démocratique, parce que ça fait trois fois que Gilles Simeoni est élu en Corse sur un programme de ce type. Et jusqu'à maintenant, on disait non.
Mmh.
Et là, je trouve que le gouvernement est assez éclairé. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que la Corse ne peut pas être gérée comme une autre région française, c'est évident. Sa place dans la Méditerranée est très éloignée, il y a plein de choses qui sont compliquées pour eux. T'as à la fois la loi littorale, à la fois la loi montagne, mm-hmm. les deux. Donc c'est vraiment une région très particulière pour ça. Et l'un des choses que nous voulons, nous, et le président de la région l'a dit, hein, et effectivement, nous voudrions que le statut qui a été négocié soit voté et rentre dans la Constitution.
La constitutionnalisation, on pourrait dire comme ça, de la régionalisation, ça fait peut-être un titre un peu pompeux. On a aussi le côté culturel. On voit la Corse, une région à forte identité culturelle. La Bretagne l'est aussi. Alors, il ne s'agit pas de dire qui est plus à forte identité que l'autre. Mais on voit quand même des régions qui reviennent à leur identité. La Bretagne a toujours été très attachée à sa culture, à sa musique, aux langues. Alors, je dis aux langues au pluriel, puisqu'il y a deux langues en Bretagne, le breton et le gallo. La région a fait énormément pour les langues régionales.
Alors oui, on a fait beaucoup, mais on continue à faire. Mmh. Parce que, si vous voulez, le budget de la région pour les langues, en quelques années, il a été augmenté de 20%. Donc c'est assez énorme, parce qu'on est plutôt dans un moment compliqué au niveau des finances publiques.
On est plutôt sur l'économie aujourd'hui.
Les collectivités locales, en fait, le budget des langues en Bretagne, c'est le seul budget qui ne baisse pas.
Ce qui est une bonne nouvelle pour la culture.
Quand je vois mes collègues sur les autres, le sport, etc., ils me disent t'as de la chance, toi. Hein? Donc, vous voyez, et je pense que bon, c'est important. C'est un budget à peu près d'une dizaine de millions. Si on rajoute le budget d'un certain nombre de départements, on doit arriver à peu près à 15 millions.
Mmh.
Donc c'est un budget qui est quand même conséquent. Alors bien sûr, on voudrait toujours plus, mais en particulier la chose qui est importante, c'est la capacité de négocier avec l'État, parce que bon, si vous prenez l'enseignement, c'est prérogative d'État.
Mmh.
Si vous prenez les routes nationales, c'est prérogative d'État. Et on a un petit sujet là en ce moment, parce que nous, on voudrait bien que l'affichage en Haute-Bretagne soit trilingue.
Mmh.
Mais bon, je suis passé là côté de Plémé, j'ai vu que c'était pas trilingue, donc c'est un peu compliqué alors avec avec la préfecture, puisque nous on lui a dit que la solution qu'on a arrêtée, c'est on fait du bilingue en Basse-Bretagne, breton français, on fait du trilingue quand on est en Haute-Bretagne. Bon, il va falloir qu'on discute encore un petit peu avec la préfecture pour que tout ça se mette en place.
Il nous reste trois petites minutes, Paul Molac. Je voulais vous entendre aussi, toujours sur la culture. Aujourd'hui, il y a des grandes inquiétudes sur les médias, Paris, en particulier en France. On est dans une époque troublée, où on entend beaucoup de fake news, beaucoup de choses. On a une chance en Bretagne d'avoir des médias vivants. Alors, on va prêcher un peu pour notre chapelle. Les radios associatives, Bretagne 5 en fait partie, il y en a d'autres, bien entendu, et toutes ces radios permettent justement l'expression politique, l'expression culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui la région doit faire un peu plus pour conserver ces médias dans un moment où ils sont fragiles, on pourrait le dire comme ça?
Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est la mise en place de la radio numérique.
Mmh, le donc DAB+.
Ça va nous coûter un peu d'argent, parce que j'ai déjà vu les budgets. Là-dessus qu'on est parti aujourd'hui. Donc oui, alors on est souvent au niveau des radios la collectivité qui soutient le plus. Mmh. Et en particulier quand on a des... Alors moi, je m'occupe du budget langue. Hein, donc
oui,
donc en particulier les radios qui font du breton et du gallo effectivement reçoivent un abondement par rapport au gallo et au breton. Donc c'est quelque chose que... Alors, difficile parfois, effectivement, parce que le DAB+, ça va être des moyens en plus. Mmh. Mais on est dessus. Mmh. Oui, oui.
Avec l'importance de conserver ces médias régionaux, on a longtemps parlé d'une radio, d'une télévision publique régionale. On va pas tirer sur nos confrères de France 3 ou de Radio France. Mais il y a eu cette idée-là à un moment. C'est toujours dans les cartons.
Alors, c'était dans les cartons, mais en fait, on voit bien qu'à Paris, ils ont pas trop envie de le faire. L'idée, c'est de se débarrasser plutôt des chaînes publiques, malheureusement. Mmh. Parce que ça, je pense que ça fait partie de l'offre globale, hein, mmh. Parce qu'il faudrait pas qu'il n'y ait que ça, évidemment, mais de l'offre globale, et je crois que c'est pas à l'ordre du jour. Donc, si on veut faire ça, il faudra qu'effectivement ce soit la région qui soit moteur. Alors, nous, on a quelques idées, c'est vrai, mais ça demande pas mal d'argent aussi.
Voilà, toujours le nerf de la guerre. Un dernier mot. On voit une situation très compliquée aujourd'hui au niveau politique à quelques semaines de l'échéance électorale européenne. En une minute, hein, en une petite minute, est-ce que ça vous inquiète le climat actuel?
Oui, parce que je pense que les Français ne regardent pas la réalité comme elle est réellement. C'est-à-dire qu'ils voient un certain nombre de choses, des anecdotes qu'il y a, par exemple, à la télé, et ils pensent que c'est la réalité. Mmh. Alors, je vais vous donner un petit exemple là aussi, parce que j'aime bien les exemples. Ma maman, qui à cette époque-là avait à peu près 94 ans, me dit comme ça, « Oh, dis donc, il y a des crimes quand même. » Alors je lui dis, écoute maman, t'as vu plus de crimes que d'habitude à Pleurmel? Elle me dit, ah non, pas à Pleurmel. Bah, je lui dis, ah, pourquoi tu me dis ça? Alors elle me dit, ah ben on voit bien à la télé. Ah bah je lui dis, maman, t'inquiète pas, hein, le jour où il y aura plus de crimes en France, ils iront chercher à l'étranger. Donc faut pas confondre, si vous voulez, les crimes, il y en a toujours eu malheureusement, mmh. et la fréquence des crimes. Mmh. Aujourd'hui on a un problème grave, c'est celui des bandes et en particulier lié au trafic de drogue. Mmh. Alors ça, effectivement, c'est un vrai problème. Mais je dirais, la guerre des gangs, ça date pas d'aujourd'hui. Mmh. Donc, à un moment donné, il faut regarder les choses et il faut voir un peu d'un niveau statistique.
C'est devenu peut-être plus violent aujourd'hui.
Non, parce qu'on voit que les crimes de sang, ça baisse, mmh. globalement. Et donc, non, c'est pas devenu plus violent. Non, non, bien au contraire, c'est plutôt plus policé qu'avant.
Voilà, reste en Bretagne, on a toujours des problèmes qu'on n'avait pas avant, justement, autour du trafic de drogue, oui. dans les villes et même dans nos campagnes. Voilà.
Oui, parce qu'ils ont tendance à venir aussi dans les campagnes. Alors, le gouvernement, il travaille, il faut continuer à travailler sur ces questions, parce que le trafic de drogue, c'est ça qui nourrit, finalement, le crime organisé.
On va devoir se quitter là, Paul Molac, député de la 4e circonscription du Morbihan, conseiller régional et avec ce magnifique costume que j'ai admiré là pendant toute l'interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous et très belle journée.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.
Et tout de suite, nous allons feuilleter les unes de la presse régionale de ce lundi en commençant par Presse Océan. Le pourquoi des os se placer sur le cercueil, ça pourrait faire un bon titre de roman et pourtant c'est la une de Presse Océan ce matin. Le 5 septembre 2023, un fossoyeur de Saint-Molf a fait une surprenante découverte. Alors qu'il procède à la sortie de deux cercueils d'une concession, un squelette se trouve sur le couvercle. Là encore, ça pourrait faire un roman, mais les esprits sont à lire dans Presse Océan ce matin. Presse Océan qui nous parle de l'Europe et plus particulièrement de l'Europe vue par les jeunes. Dans un peu plus d'un mois, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire les députés européens. Mais les jeunes des quartiers à Nantes portent un regard très distancié sur l'UE. C'est à lire dans Presse Océan ce matin. Presse Océan qui nous parle de la fraiserie qui fait aussi salon de thé. Après plusieurs mois de travaux, l'enseigne spécialiste de la fraise se diversifie avec une nouvelle offre. On parle de commerce ce matin dans Presse Océan. Ça se passe à Pornic. À Nantes, ils vivent autour de la Beaujoire. Vivre à proximité du stade, c'est profiter de l'animation des soirs de match, comme aussi également subir les bouchons. C'est à lire dans Presse Océan ce matin. Et précisément, Presse Océan nous parle de foot et du FC Nantes. Comme Boiré a transmis aux Canaries sa grinta. Ah, c'est c'est à lire dans le cahier sport de Presse Océan ce matin. De Presse Océan, on passe au Télégramme. Le Télégramme qui met à sa une Bigard, le discret géant breton de la viande. Un dossier à lire dans le Télégramme ce lundi. Le Télégramme qui nous parle aussi d'Hervé Berville. La transition écologique, une opportunité pour l'UE, a déclaré le secrétaire d'État à la mer, qui a répondu aux questions du Télégramme à l'occasion de sa visite en Bretagne. C'est à lire ce matin dans le Télégramme. Le Télégramme qui nous emmène aussi en Allemagne avec Sarah Wenkernesch. Elle bouscule la gauche allemande, nous dit le quotidien. Née d'une scission de Die Linke, son parti ancré à gauche est anti-woke et se méfie de l'UE et des États-Unis. C'est à lire dans les pages du Télégramme ce matin. Le Télégramme qui nous emmène à Douarnenez avec un coup de projecteur national diversement apprécié. Un article du magazine Elle fait un parallèle entre la cité Pensardine et Saint-Tropez, bien que critiqué. Il illustre l'intérêt que suscite la ville. C'est à lire là aussi dans le Télégramme qui nous parle du Trobro Léon. Arnaud Delis s'adjuge la 40e place sur les Ribinous. Le Belge a devancé Venturini. C'est en page sport et on parlait de vélo, bien entendu. Vous l'aurez compris. On termine par Ouest-France. L'Union européenne face au défi de l'élargissement. L'Europe fait aussi la une du quotidien. Faut-il intégrer de nouveaux candidats au risque de déstabiliser l'UE ou courir le danger de laisser le champ libre à d'autres puissances? La guerre en Ukraine place les Européens devant de nouveaux défis. C'est à lire ce matin dans Ouest-France. Ouest-France qui nous parle aussi d'automobile. Comment convertir toute la filière à l'électrique? L'État veut accompagner la conversion des sous-traitants pour parvenir à 2 millions de véhicules électriques produits en France en 2080. C'est à lire en page 4 du Télégramme ce matin. Ouest-France qui nous emmène en Ille-et-Vilaine, l'Europe partenaire majeur du département, c'est à lire également dans les colonnes de Ouest-France. Enfin, les plages en Ille-et-Vilaine, où les chiens sont-ils acceptés? À Saint-Malo, les plages sont interdites par exemple aux animaux domestiques, même tenus en laisse. Voilà, c'est à lire dans Ouest-France pour en savoir un peu plus et savoir si vous pouvez emmener votre toutou à la plage.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Et à 8h50, point de toutou à l'horizon, mais tout de suite, voici les informations, le point sur l'actualité. Florian Laffont, bonjour.
Bonjour, c'est le premier voyage en Europe du président chinois depuis la pandémie. Xi Jinping est arrivé en France hier à l'occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Il doit notamment rencontrer aujourd'hui le chef de l'État Emmanuel Macron pour parler, entre autres, de la guerre en Ukraine alors que Pékin continue d'apporter son soutien à la Russie. Les deux dirigeants se rendront demain dans les Pyrénées pour un déjeuner au col du Tourmalet. Nouvelle fusillade à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Deux hommes de 31 et 35 ans ont été tués par balle en pleine rue hier en début de soirée. Les deux victimes étaient connues de la justice pour trafic de stupéfiants. Des faits qui interviennent deux jours après une autre fusillade dans la ville qui avait fait un mort et plusieurs blessés vendredi soir. À Marseille, c'est un adolescent de 17 ans qui a été tué par balle dans la nuit dans les quartiers nord. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs qui sont actuellement en fuite. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Pour la première fois aujourd'hui, des enfants vont témoigner devant la cour d'assises spéciale de Paris au procès en appel de l'attentat de Nice. Un drame qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016. Jamais jusqu'ici, des jeunes mineurs n'avaient raconté cette tragédie en audience publique. Le président avait refusé ces témoignages lors du premier procès. Son successeur a lui donné son autorisation, mais à une condition, que ses enfants témoignent en visioconférence depuis le tribunal judiciaire de Nice. Le mouvement pro-Palestine prend de l'ampleur en France. Après les grandes écoles comme Sciences Po et les universités, c'est au tour des lycéens de bloquer leur établissement aujourd'hui. Ils demandent un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance d'un État pour la Palestine. Un mouvement qui devrait être suivi par plusieurs dizaines d'établissements, surtout en Ile-de-France. Et puis le tunnel sous la Manche fête aujourd'hui ses 30 ans. L'infrastructure reliant la France à l'Angleterre a été inaugurée le 6 mai 1994 par la reine d'Angleterre Elisabeth II et le président français de l'époque, François Mitterrand. Chaque année, près de 10 millions de personnes voyagent à bord d'un train Eurostar. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne matinée à notre écoute.
Florian Laffont était avec nous pour les informations. Florian qui revient tout à l'heure à la fin de la matinale à 9h pour un nouveau point sur l'actualité. Et puis n'oubliez pas ce soir, tenez les lectures en liberté de Denis Flageol à 20h05. Très précisément, Denis débute cette semaine la lecture du livre d'Alice Fernet, Grâce et dénuement. Ce sera donc tout à l'heure à 20h05. 5. mais pour l'instant, à 8h53, on va écouter de la musique classique. C'est l'heure du classique du matin avec Alexandre Hervé.
Ce matin, nous écoutons la Danson numéro 2 d'Arturo Marquez. Le danson est un genre musical créé à Cuba en 1879, dérivé de la habanera, elle-même cubaine, mais plus spontanée et sur laquelle les musiciens peuvent improviser. Ce genre musical dérivera lui aussi pour donner la salsa. Le danson a été déclaré comme patrimoine culturel de Cuba en 2013. Il s'est répandu en République dominicaine et au Mexique, où il est encore aujourd'hui pratiqué avec passion. La danson numéro 2 du compositeur mexicain Arturo Marquez, créée en 1994, en témoigne. Influencé à la fois par le danson et les rythmes populaires mexicains, cette pièce fut saluée pour son 20e anniversaire par le gouvernement et décrite comme étant l'un des visages les plus authentiques de la musique mexicaine actuelle. Thank you.
Le classique du matin, Alexandre Hervé a retrouvé Alexandre et son classique du matin en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h59 tout de suite. Sans attendre, nous retrouvons Meredith Lodaz et sa bulle poétique.
La bulle poétique. Meredith Lodaz.
Bonjour et bonne année à tous. Cette semaine, la bulle poétique est consacrée à un recueil de Marie-Lise Leroux, On n'a rien dit de l'océan, paru en 2021 aux éditions L'Atelier des Noyers et accompagné des œuvres d'Anouk van Rantergem. On n'a rien dit de l'océan. La lumière s'accroche à d'autres pointes. La mer repart chercher son souffle.